Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Vent dans les Pages pour une heure d'émission consacrée à la littérature. Avec les conseils de mes camarades Anne et Catherine, bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour Véro.
Vous allez bien ? Par ce ciel bas de novembre.
Je suis comme l'escargot de Bourgogne, moi ça va.
c'est bon. Eh ben, on va voir ça tout à l'heure, tiens. Ouais. Et dans pas très longtemps, parce que je vais rapidement te passer la parole. Mais avant ça, je voudrais rappeler que donc en fin d'émission, on va retrouver la chronique d'Alice, la chronique politique d'Alice, enregistrée l'année dernière. Mais vous verrez, c'est toujours d'actualité pour l'heure. Donc je te passe immédiatement la parole, Catherine, pour un conseil lecture. Pour le mois de novembre, alors, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Alors, ça se passe pas en plein soleil sur une île déserte, c'est raté. Hein. Alors, j'ai choisi le dernier livre, dernier roman de Mélisse de Kerangal. Il est sorti là, à la rentrée. Et il s'appelle « Un monde à portée de main ». Alors, comme Mélisse de Kerangal, pour ceux qui l'ont déjà lu, et pour ceux qui ne l'ont pas lu, tant mieux pour eux, ils vont la découvrir. On est plongé dans un univers inhabituel. À la fois, c'est un lieu clos et à la fois, on est connecté au monde. Et quand je dis le monde, c'est aussi bien géographique qu'historique. Voilà. Alors, c'est l'histoire de trois copains, Paula, Jonas et Kate. Ces trois jeunes se sont rencontrés dans une école de peinture bruxelloise. Avant de vous parler de ce qu'est cette école, je vais vous lire un premier petit extrait. Elle a posé ses affaires à ses pieds et laisse traîner son regard dans la pièce sur le sol, le plafond, les murs. Elle se demande où elle est tombée. Autour d'elle, et de plus en plus nette à mesure que les secondes s'écoulent et que ses yeux s'adaptent à la pénombre, les parois échantillonnent de grands parements de marbre et des panneaux de bois, des colonnes cannelées, des chapiteaux à feuilles d'acanthe, une fenêtre ouverte sur la ramure d'un cerisier en fleurs, une mésange, un ciel délicat. Soudain, Paula enjambe son sac, s'avance lentement vers les plaques de marbre, de la brèche violette, elle le saura plus tard, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve. Elle s'approche tout près, regarde, c'est bien une image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule, puis avance, touche, comme si elle jouait à faire disparaître, puis à faire revenir l'illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus troublée, tandis qu'elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au dehors, certaine qu'un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. Pourtant, une fois parvenue devant la mésange arrêtée sur sa branche, elle s'immobilise, allonge le bras dans l'aube rose, ouvre la main afin de glisser ses doigts entre les plumes de l'oiseau et tend l'oreille dans le feuillage. Alors, ils se sont inscrits dans une école où on leur apprend la reproduction, le trompe-l'œil ou le facsimilé. Mmh. Donc, tout est faux. C'est une école comme une porte à la fois fermée et ouverte sur l'art. Alors, il y a des tas de questions sur l'art. Est-on artiste quand on est faussaire de réalité, quand on est copiste ? Alors, est-ce qu'on peut parler de copiste ou plutôt de, j'invente un mot, trompeur ? Voilà, donc c'est aussi une question qui pourrait être en écho pour Mélisse de Kerangal sur la littérature. Quel rapport de la romancière avec la fiction ? Voilà. Donc, l'histoire de ces trois copains est complètement liée, s'entremêle, mais le personnage qu'on va suivre, c'est Paula. Donc, on va la suivre dans cette formation. On va la suivre... alors, cette formation-là, c'est typique de Mélisse de Kerangal, ce qu'on lut... comment ça s'appelle ?
Préparer les vivants.
Non, Préparer les vivants, et celui d'avant, Construction d'un pont. Oui. On a l'impression qu'elle va passer des années à apprendre à construire un pont ou à faire une opération cardiaque. Tellement elle s'implique dans son sujet. Donc, elle a un dense matériau documentaire. Donc, avec Paula, on voyage dans ce monde de peinture et dans ce monde qui est ouvert sur le monde, puisqu'on le voit dans ses expériences professionnelles après. Elle part à Turin pour un voyage en Égypte, puisqu'elle peint, des bas-reliefs égyptiens. On la retrouve à Rome, à Cinecittà, où elle va... Donc, c'est la cité des décors de cinéma. Puis à Moscou, pour les décors d'un film sur l'histoire d'Anna Karenine. Et elle finit, alors là, on n'est plus dans le trompe-l'œil, mais dans la copie, jusqu'à la réplique de la grotte de Lascaux. Donc tous ces lieux nous invitent à nous interroger sur le pouvoir des apparences dans lesquelles nous pénétrons grâce à l'auteur, à son vocabulaire, à la fois passionné, sensuel, précis et à haute teneur poétique. Donc ça, ce qui ressemble, enfin, on est avec le nuancier du peintre quand elle écrit, donc il y a aussi le nuancier de l'écrivain, et elle nous offre des moments d'une richesse descriptive époustouflante. Et donc à travers la main qui copie le monde, enfin, ça, c'est le ressenti que j'ai eu à travers cette main, on a l'impression que le monde entier s'ouvre dans son histoire et sa géographie. C'est-à-dire qu'un marbre va nous envoyer à une carrière à l'autre bout du monde, mais va aussi nous envoyer aux traces des fossiles, donc au temps où la mer était dans l'est de la France, etc. Donc on voyage, c'est un voyage fabuleux à travers la matière, sur tous ces supports hein, qui sont des témoignages de l'humain, des animaux et du monde. Voilà. J'y vais vite parce que je regarde ton œil. Donc avec ces détails, elle nous fait toucher une sorte de tout, avec une langue poétique, au vocabulaire précis, sensuel. Et en fait, on a l'impression que tout le roman est une quête d'une forme de communion, une sorte de sensation de se tenir précisément là où il faut être dans le monde.
Et alors, vraiment l'impression. Est-ce que le personnage principal, au cours de ses voyages, rencontre d'autres personnes et ça ajoute à la narration?
Alors, il y a un enrichissement. Évidemment, il rencontre d'autres personnes. Ouais. D'abord, au début, quand elle apprend son métier, elle regarde les autres, elle apporte. Et puis, il y a ces trois personnages, parce que j'ai bien parlé de trois personnages. Oui. Et les trois personnages s'enrichissent parce qu'ils ont parallèlement des carrières complètement différentes. Ils se retrouvent de temps en temps et ils échangent sur leurs expériences. Ils s'apportent aussi. Le fameux Jonas, à un moment, quand elle était là à essayer de comprendre, elle voulait, je sais plus, copier un marbre. Et c'est lui qui va l'emmener dans une clairière. Alors, elle doit peut-être exister, hein, je n'ai pas été encore vérifiée. Donc, Serrefontaine, ça doit sûrement exister. Une falaise parfaitement lisse au-dessus d'un plan d'eau, le front de taille de la carrière, un mur strié de lignes d'entaille de marque, une tranche de temps. Le mur avait l'aspect d'une coupe frontale et révélait, étrangère à la géologie avoisinante, un modèle de récif corallien en dôme. Ce n'est plus un vestige inerte, mais une histoire. C'est le récit de la jungle d'avant, celui de la mangrove primitive, des barrières de corail et des lagons transparents. Et on est très loin de la mer. Donc là, c'est son copain qui l'emmène dans cette carrière pour qu'elle arrive à comprendre que c'est pas simplement copier les lignes de la pierre, mais comprendre ces lignes, aller bien au-delà. Donc c'est vraiment... quand elle dit un monde à portée de main, c'est que nous, lecteurs, on épouse la main qui dessine, qui étale ses pigments découverts, donc, surtout avec Lascaux, hein, découverts sur les parois rugueuses d'une grotte au Périgord. Et le lecteur devient, enfin, soyons un peu prétentieux, il peut presque se découvrir créateur, lui, à travers la main de l'artiste. Et puis, on peut dire que lire, c'est tenir le monde à portée de main aussi.
Non, c'est bon. T'as vu ça, la chute? Non, mais tu as un sens de la chute et de la transition.
Hein. Non, alors, vraiment, je vais être honnête complètement. Ouais. Dans la lecture, il y a le passage, justement, c'est vers au milieu, il y a tout un passage donc, sur Cinecita. Je l'ai trouvé trop long. Un peu trop long et qui m'a un peu cassé le rythme.
Dans la description,
dans la description. Ouais. J'ai l'impression que ça, disons, c'est un problème de progression dramatique. J'ai l'impression que ça n'avance pas assez. Elle a une histoire, une aventure, et je trouve que ça dure un peu trop.
Ouais.
Voilà.
C'est le seul passage.
C'est le seul passage qui m'a un peu peiné. Il y a même une histoire d'amour.
Okay.
Oh là là. Alors, je rappelle.
Oui.
Mélisse de Kerangal, le titre Un monde à portée de main aux éditions Verticales, et c'est sorti donc en 2018.
Merci beaucoup, Catherine. À tout à l'heure. Hein.
À tout à l'heure.
Tu restes ici. Hein.
Je vais voir. Ça dépend avec la pluie, je suis peut-être un peu tentée de sortir.
Anne.
Oui.
Tu as l'air toute chafouine là. Qu'est-ce qui t'arrive?
Non, pas du tout. Alors moi, je vais vous emmener dans un monde qui va vous rappeler les cérémonies d'hier et de la semaine dernière. On vous a parlé, bien sûr, de ceux de 14, de Maurice Genevoix. Du côté allemand, il faut lire « À l'ouest, rien de nouveau » de Erich Maria Remarque, qui est la vie des soldats allemands exactement pareil dans les tranchées. Et puis arrive ce livre de Marc Duguin, qui est le premier livre de Marc Duguin, qui date de 1998, il y a 20 ans, et qui s'appelle « La chambre des officiers ». Alors, le héros s'appelle Adrien Fournier, il parle à la première personne, il raconte son vécu. C'est un jeune lieutenant, ingénieur dans le civil, ingénieur des ponts, qui est envoyé pour sa première expérience dans la Meuse pour analyser le terrain et voir si on peut mettre des ponts mobiles. Alors, il part avec deux aides qui sont deux sous-lieutenants. Donc, je voudrais vous lire le début de ce livre. La guerre de 14, je ne l'ai pas connue. Je veux dire, la tranchée boueuse, l'humidité qui transperce les os, les gros rats noirs en pelage d'hiver qui se faufilent entre des détritus informes, les odeurs mélangées de tabac gris et d'excréments mal enterrés, avec, pour couvrir le tout, un ciel métallique uniforme qui se déverse à intervalles réguliers, comme si Dieu n'en finissait plus de s'acharner sur le simple soldat. C'est cette guerre-là que je n'ai pas connue. Alors, donc, il est nommé pour aller faire cette expédition avec ses deux aides, ses deux sous-lieutenants. Voilà, on approche de la rive. Mes deux hommes discutent. Je leur fais signe de se taire. À cet endroit, la Meuse se resserre. C'est là qu'il faudra que les régiments de première ligne traversent, ce soir ou demain. Je vais faire un relevé, prendre des cotes. Je cherche dans mes fontes un cahier et un crayon. Où sont mes jumelles ? Mon cheval a un trot tellement chaotique que ma vessie maltraitée menace de déborder. Pied à terre, je m'installe contre un bouleau. Une détonation part de tout près. Un sifflement d'un quart de seconde. J'ai le temps de voir une tête qui se détache d'un corps qui plie sur ses genoux. Un cheval qui s'effondre. L'autre sous-lieutenant qui était resté en selle s'écroule de mon côté, l'épaule arrachée, l'os qui sort comme d'un jambon. Je sens comme une hache qui vient s'enfoncer sous la base de mon nez, puis on coupe la lumière. Voilà, sa guerre s'arrête là. Alors, après un trajet absolument abominable dans une ambulance où ils sont à six, dont deux morts, ils arrivent au Val-de-Grâce. Alors, au Val-de-Grâce, on a réservé au premier étage une salle pour les soldats blessés de la face. Au deuxième étage, une salle pour les officiers blessés de la face.
On ne mélange pas, hein, c'est ça.
Donc, il est tout seul dans sa chambre. Alors, imaginez une salle immense, carrelée de blanc jusqu'en haut, dont on a retiré soigneusement les miroirs et dont on a obstrué les fenêtres avec de la peinture blanche. Au début, il pense qu'à lui-même. Il a une idée fixe sur la douleur qui le tient, puisque il n'a plus de nez, il n'a plus de palais, et toute cette partie-là a été arrachée. Donc, au bout de trois ou quatre essais de greffe différents, le chirurgien vient le voir. Il détaille la suite des opérations avec beaucoup de franchise, conséquence, dit-il, de la confiance qu'il accorde à ma qualité d'officier. Pour tout dire, lieutenant, je suis dans l'attente de matériaux nécessaires à la reconstitution de votre maxillaire supérieur, et en particulier de votre palais, qui, vous le savez, fait défaut. Pour cela, je ne vois pas d'autre méthode qu'une greffe osseuse. J'envisage de vous greffer des os humains. Je suis dans l'attente d'os de nourrissons qui seraient décédés fortuitement. J'ai informé mes collègues, médecins des hôpitaux civils, du caractère pressant de ma requête. À la nuit tombante, la chambre au haut plafond est silencieuse comme à l'accoutumée. J'appréhende ces nuits agitées, ces cauchemars oppressants qui me réveillent à intervalles réguliers et qui recommencent là où ils s'étaient interrompus avant que je me rendorme, bercé par le râle sourd de mes compagnons qui s'accrochent à la vie sans le savoir. Les réveils sont encore plus terrifiants car ils déchirent le voile de l'irréel. Seul l'éther parvient à réveiller mon odorat pour l'endormir aussitôt. Alors il a des compagnons. Ses compagnons s'appellent Henri de Pénanster. C'est un officier de cavalerie, un jeune officier de cavalerie, qui lui a eu toute la partie moitié du visage qui a été arrachée, un coup de sabot. Et un aviateur qui s'appelle Pierre Veil, qui est juif et qui est absolument adorable, plaisant, rieur, qui a un humour fou et qui essaye de leur faire voir la vie avec gaieté. Donc, les journées se passent, les mois se passent, les années se passent, ils font des concours de nombre de greffes par personne, Et bien entendu, la salle se remplit et il y a des jeunes qui arrivent et qui sont prêts à se suicider, qui ne supportent pas l'idée de passer toute leur vie avec un visage complètement démoli. Nous n'évoquions jamais l'avenir entre nous, mais je commençais à y penser. Par petites touches successives, il s'annonçait aussi douloureux que le passé, ou plus. Le passé nous avait pris par surprise, comme la foudre sur un arbre tranquille. L'avenir s'approchait à petits pas de vieillard. Le futur immédiat paraissait le plus effrayant. Un jour ou l'autre, il faudrait se décider à sortir pour de bon. Notre première tentative avait soulagé... Le renoncement à notre première tentative avait soulagé Pennanster et Veil, mais nous savions qu'il faudrait y retourner. Nous avions, pour gagner du temps, l'alibi des nouveaux qui arrivaient par train entier de Verdun. La capacité d'accueil du service maxillofacial avait été doublée. Nous avions de quoi nous occuper. Toutes les semaines, un nouvel arrivant tentait de se donner la mort en s'ouvrant les veines ou en se pendant au réservoir d'eau des toilettes. Pennanster, dont chaque geste, chaque parole traduisait le courage, en imposait aux nouveaux arrivants, tentait de s'apitoyer sur eux-mêmes. Éveil les bousculait par ses plaisanteries qui faisaient rire même ceux qui n'avaient plus de bouche. Il leur racontait qu'il avait intenté un procès au service de santé à cause du nez en aluminium peint qu'on lui avait implanté, un nez droit comme celui d'une bonne sœur, à lui, juif. C'est un livre qui respire l'espoir, qui respire l'optimisme et le désir de s'en sortir. J'ai adoré l'écriture parce que c'est très sec, très, très incisif, précis. On ne tourne pas autour des mots. Et en même temps, on ne sort pas de ce livre en se disant « Mon Dieu, comme ces gens sont malheureux. » On se dit « Mon Dieu, ils ont réussi à prendre leur vie à bras-le-corps et on ne se préoccupe pas du regard des autres. » Voilà, c'est un livre qui est chez Pocket, de Marc Duguin, 1998.
Et on peut saluer l'adaptation au cinéma.
Qui est très belle.
Tout à fait. Qui est vraiment...
Alors, j'ai un petit bémol.
Oui.
Oui.
Vas-y.
L'adaptation au cinéma, comme beaucoup d'adaptations, s'arrête à un moment clé qui est la bonne chute. Le livre va au-delà, c'est-à-dire que le film s'arrête à la fin de la guerre. Le livre s'arrête au moment où... Pennanster et Alain Fournier décident l'un de quitter sa Bretagne et l'autre sa Normandie et de revenir à Paris pour sauver la famille de Veil qui est poursuivie par les nazis et qui est sur le point d'être arrêtée. Mmh. Et il les ramène, bien qu'il soit grand blessé de la face, décoré, etc. Il est sur le point d'être déporté. Voilà.
Et ça, cette fin cinématographique, non, ça t'a...
C'est pas que ça m'a gênée, non, ça va très bien dans le cadre du film.
Voilà.
Mais je trouve que ça, la fin du livre montre que, qu'on le veuille ou non, la folie des hommes et l'oubli font que, tout recommence. Mm. Et tout a recommencé, d'ailleurs.
Oui, en effet, oui. Merci Anne. Et puis on se retrouve, Catherine, on se retrouve dans 10 secondes. Hein,
oh là là.
Ça va aller. À tout de suite. Du vent dans les pages, sur Studio Zeph. C'est parti, Catherine, pour ton deuxième choix.
Alors, on va un petit peu changer de lieu et d'époque. Alors, j'ai choisi un livre de Valentine Gobi qui est sorti en 2016, donc il y a 2 ans, qui s'appelle « Un paquebot dans les arbres ». Ça fait très Magritte comme titre, mais vraiment, ça n'a rien à voir. Alors, je ne sais pas si vous... Enfin, pour ceux qui ont déjà lu du Valentine Gobi, par exemple, le très, très beau Kinderzimmer, Kinderzimmer, c'est dans les camps. Elle prend un sujet, elle ne raconte pas sa vie, elle prend un sujet qu'elle rencontre, là, dans ce cas-là, c'est une rencontre avec quelqu'un qui a vraiment vécu ça. Et elle fait ce sujet, elle fait corps avec ce sujet. Donc, elle part de la même façon, il faut se documenter, mais elle part dans son roman. Alors là, ça se passe dans les années 50-60. On est en plein dans les 30 Glorieuses, la belle époque, entre guillemets, après la guerre. Mmh. C'est pas si belle que ça, toujours. Ouais. Alors, ça raconte l'histoire d'une famille avec ses trois enfants. C'est des gens simples. Ils sont cafetiers dans la région parisienne, à la Roche-Guyon, pour être précis. Et ils sont dans ce petit village, le cœur battant du village, parce que ils sont, surtout le père Polo, qui met une ambiance de fête dans le village, sous les yeux admiratifs de sa petite dernière Mathilde, qui a 9 ans quand le roman commence. Et chaque samedi, au balto, Polo pousse les tables pour le bal. Ça danse, ça boit, ça rit, lui joue de l'harmonica, et la vie est une fête. Ce sont des gens mais adorables, sympathiques, généreux, mais complètement insouciants. C'est le bonheur et ils sont à la disposition des gens et tout le monde, évidemment, les adore. Alors, juste un petit coup de début pour voir comment ça se passe. Tous les regards convergent vers lui, vers sa bouche qui mord l'harmonica au nerf. Pour l'instant, ils écoutent. Les hanches vibrent comme des ailes de bourdon. Il ouvre et ferme ses paumes en coquille et tord ses lèvres en glissant à l'octave les yeux mi-clos. Il est assis sur le dossier d'une chaise que 3 gars accroupis tiennent ferme. Maintenant, il frappe sur les tables, sur leurs cuisses. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Au début, ça crépite, irrégulier. Mais Paul Blanc aspire et souffle 10 fois les mêmes notes, têtu, ajoutant seulement ça et là une trille, enjolivant le motif initial, sans jamais le perdre, confiant. Il sait qu'à force, ils vont le suivre, même rond comme des barriques. Et au bout d'un moment, ça prend malgré les rires et les chaises qui tanguent, ça fait corps. 100 mains frappent en cadence au tempo de la valse, tam papa tam papa sur d'elle. Ils se mettent à chanter par-dessus la claque, frou 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 frou. Alors il improvise autour du thème, il s'évade dans les aigus, les rejoint 3 mesures, puis passe en seconde voix, le mi sous le do, le fa sous le ré, l'harmonica si ses gencives. Il orne la mélodie qu'ils tiennent seuls. Il est heureux le patron, le honneur fend un large sourire dans son visage. Donc voilà l'ambiance, on l'imagine très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que c'est à ce moment-là que la tuberculose frappe son père et d'ailleurs un peu plus tard sa mère. Donc, et Valentine Gobi rappelle que la tuberculose, même si c'est un mot qui fait encore de l'effet, terrifie à cette époque. C'est presque en écho aux grandes peurs du Moyen-Âge. Voilà une citation. « Devant le tubard, on change de trottoir. Sa solitude extrême, Thomas Bernard l'appelle le froid. Par pitié pour ses exclus et contre toute logique médicale, on renonce à imposer la déclaration obligatoire de la maladie. Le tubard est caché. » Donc, ils étaient doués pour le bonheur, mais ils étaient totalement imprévoyants. Et donc, ce couple sera très vite ruiné par les soins. Ils sont obligés, il est commerçant, il n'a donc pas de sécurité sociale. Il n'a pas de protection sociale. Donc, il est obligé de vendre le café. Il faut placer les enfants. Donc, la famille explose. Voilà. Donc, c'est vraiment la spirale de la dépossession de tout. Et à la fin, entre-temps, les parents sont admis donc, au sanatorium d'Incourt. Et c'est ça qu'on appelle le paquebot. Ce grand paquebot blanc niché au milieu des arbres, pièce clé de l'arsenal anti-tuberculo des années 30. Ces grands sanatoriums avaient été construits dans les années 30. Et on les appelait les paquebots parce qu'ils avaient des formes de paquebots perdus au milieu des arbres. Alors pour la petite histoire, à une époque, ça a servi aussi de camp. Oui. Quelques années plus tard. Voilà. Donc la petite Mathilde, alors la petite, puis après ça deviendra une jeune femme, elle lutte sans relâche, elle est obsédée par une chose, réunir cette famille en détresse, sauver sa famille, préserver la dignité de ses parents, arriver à les ressortir de ce sanatorium, etc. Donc elle se bat, c'est une tragédie silencieuse, celle de la famille Blanc au début des années 60, un récit en marge, celle de la maladie et de la misère au temps miraculeux de la prospérité, de la sécurité sociale et des antibiotiques qui semblent clore l'histoire de la tuberculose. Donc tout ça n'est pas pour tout le monde. Et il y a une page, alors elle a l'air pas très poétique la page que je vais vous lire, mais je trouve qu'il y a un sacré écho. La jeune Mathilde devient évidemment grande et elle travaille. Elle a un premier vrai travail, comme elle dit. Et je vais vous lire le passage où elle lit pour la première fois sa feuille de paye. Elle déplie la feuille, lit chaque chiffre dans chaque colonne, base et montant des rémunérations, 445,45 francs, sécurité sociale, régime général, 26,73 francs, assurance chômage, 0,89 francs. Tout de suite, elle mémorise les chiffres de la sécurité sociale et de l'assurance chômage. Sa vie entière, elle les retiendra jusqu'à ce jour de juillet, 50 ans plus tard. Et vous pourriez l'interroger tandis qu'elle regarde tomber les gouttes de pluie sur ses chaussures, assise sur un banc jouxtant la plaque à la mémoire des déportés d'un cours. Elle vous énoncerait au centime près le montant de ses premières cotisations. Merveilleux mot, cotisation, qui fait d'une visite chez le médecin un acte de routine, d'une grippe un état passager. Il allège les souffrances physiques avant même leur apparition, dissipe l'effroi de la ruine. On pourrait rire, hein, vu de 2012, de cette joie intense qui saisit Mathilde à l'instant où elle déplie la fiche de paye, lisant et relisant ces deux chiffres à virgule qui changent toute sa vie, tandis que les mains de son père pèlent à cause des antibiotiques et que de grosses cavernes s'ouvrent dans son poumon. C'est le plus beau jour, c'est certain. Plus tard, d'autres joies viendront en concurrence, mais aucune n'atterra rétrospectivement l'intensité du jour radieux de la première cotisation à la sécurité sociale. Elle tient à distance les spectres de la mort et de la dépendance. Et tu feras quoi avec ta première paye, hein? S'il savait. Ce sera magnifique. Elle ira chez le dentiste. Voilà. Alors, c'est fait exprès de choisir ça, parce qu'on oublie un peu... À quel point c'est fabuleux, la sécurité sociale. Donc voilà, donc le roman, c'est le combat d'une petite fille, puis d'une jeune femme, pour son père, qui mourra de la tuberculose, qui est en fait victime, bien sûr, de son insouciance, mais de la pauvreté aussi. Hein, parce que les commerçants, il aurait fallu qu'ils cotisent de lui-même, donc son insouciance a fait qu'il n'a pas cotisé, et ils ne sont pas du tout protégés. Voilà.
Dans le contexte donc, des années 30.
Non, là, c'est les années 50, les années 50. Puis 60.
C'est après, oui, c'est après.
Puisque la sécurité sociale, c'est 45, hein, ça a été créé.
Voilà. Mais le début de le passage que tu as lu au départ...
C'est les années 50.
C'est les années 50, oui, d'accord. C'est... Excuse-moi, j'ai
belle époque. Belle époque. Donc Valentine Gobbi, elle nous décrit ce personnage exceptionnel de Mathilde. Hein. C'est une sorte d'une illustration de ce que peut être... c'est une mère courage, de dire ça d'un enfant, mais c'est une mère courage. Elle prend ses parents comme des enfants sous son aile, et puis ses frères et sœurs, même si elle est la petite dernière. Voilà. Et elle n'a qu'une envie, c'est les sauver, les sauvegarder de la dignité, parce qu'ils ont honte de leur maladie. Et aussi, c'est une illustration de la possibilité de l'émancipation de la femme, puisqu'il y a toute son histoire, elle travaille ça, et du corps, qui est un thème très cher à Valentine Gobbi. Donc le style est assez simple, dépouillé, écrit à la troisième personne, avec une langue assez populaire, à la manière des dialogues d'Audiard, vu le milieu dans lequel ça se passe. Donc elle restitue l'atmosphère de ces milieux, c'est la gouaille, le franc-parler, etc. Mais malgré ce côté un peu je te tape dans le dos, il y a vraiment l'épaisseur humaine des personnages, et c'est une très belle histoire et un très beau roman.
C'est ça qui t'a plu dans ce roman particulièrement? C'est cette
Non, c'est pas que ça. C'est le style est vraiment au service.
C'est le style, ouais.
D'abord, c'est cette idée que dans les années 50, tout va bien. Hein, c'est tout est formidable après-guerre, mais c'est pas pour tout le monde.
Et que
c'est un peu dur pour une bonne partie de la population, et qu'il y a une certaine misère encore bien présente. Et puis c'est aussi la mise à l'index de gens qui ont comme faute d'être tombés malades.
Ouais.
Donc ça, c'est quand même...
C'est un sujet rarement abordé dans la littérature, d'ailleurs. Enfin, cet écueil...
C'est l'histoire de la cigale.
Oui, un peu la cigale. Ouais. Sauf que nous pouvons être des cigales si on a cotisé à la sécu, parce que nous, c'est automatique pour nous.
Ouais.
Donc, on ne se pose pas la question. Mmh. Mais le jour où on tombe malade, on est content que la sécu réagisse. Mmh. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que nous sommes des cigales.
Mais écoute,
bien
as,
protégées.
Tu as rappelé une règle évidence, sociale, oui. Une évidence.
Voilà. Mais ça ne s'arrête pas. Ça.
Et tu as chanté Froufrou. Alors là, voilà, vraiment.
Et je me suis arrêtée parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de secondes. Mais j'aurais pu aller plus loin.
Catherine.
Mais franchement, ce n'est pas que la sécu. C'est un très beau roman, une très belle histoire et très bien. Alors, il faut savoir, c'est tout sur le fond, c'est la guerre d'Algérie. Ah ouais. L'OAS, les attentats, il y a tout ça derrière aussi.
D'accord.
Il y a toute cette ambiance. Voilà.
Okay.
Bon, je rappelle le titre.
Oui.
Un paquebot dans les arbres de Valentine Gobbi, G-O-B-Y, publié chez Actes Sud en 2016. Ah,
super édition encore.
Et oui.
Merci beaucoup Catherine. Anne, c'est à ton
c'est
tour.
C'est à mon tour.
Mais bien sûr.
Oui, alors moi je vous emmène très loin, très loin. Hein. En 1138. Alors nous sommes... au Pays de Galles, enfin à la limite entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Guillaume le Conquérant vient de mourir, quand le roi est mort, les chacals se déchirent. Il y a deux personnages importants pour sa succession, sa fille Mathilde, c'est une femme, et son gendre Étienne, le mari de son autre fille. Alors bien entendu, c'est une guerre civile. Il y a les partisans de Mathilde et puis il y a les partisans d'Étienne. Et ce sont des guerres, on attaque un château, quand on a fini d'attaquer le château, on pend les gens qui sont dedans.
Sympa.
C'est une évidence. Donc, le château dont je parle s'appelle Shrewsbury et il y a une magnifique abbaye juste à côté, une abbaye bénédictine. Et dans cette abbaye bénédictine, un moine qui s'appelle le frère Cadval. Alors, je vous défie bien de trouver des Gallois qui s'appellent Cadval. Il n'y en a qu'un dans la littérature et il n'y en a qu'un en réalité, parce que c'est un prénom créé de toutes pièces. Mais ça a une consonance galloise.
Ça va, ça marche bien. Hein.
N'est-ce pas? Donc, le frère Cadval est un cas un peu particulier. C'est un moine pas comme les autres. Il est devenu moine à 40 ans. À 20 ans, il est parti faire la première croisade. En Terre Sainte, il s'est accoquiné avec une charmante dame. Ensuite, ils se sont séparés. Il est devenu commandant d'un vaisseau qui cabotait le long des côtes de Terre Sainte. Et puis, à 40 ans, il en a eu assez. Il a eu envie de rentrer. Et sur les routes, il a rencontré Dieu. Et il a décidé de rentrer dans la première abbaye qui se présentait, qui était l'abbaye de Shrewsbury. Alors là, on a eu l'intelligence d'utiliser ses compétences et de supporter son caractère, parce que c'est un homme extrêmement indépendant qui n'en fait qu'à sa tête. Mais surtout, il a des doigts d'or, c'est un frère herboriste. C'est lui qui gère le jardin des simples, c'est lui qu'on envoie soigner les gens à l'extérieur de l'abbaye, etc. Donc, le château de Shrewsbury est attaqué par le roi Étienne, qui, dans sa colère, fait pendre les 94 occupants du château autour et demande aux moines de venir s'occuper des corps. Donc, le frère Cadval monte avec une petite équipe au château, fait dépendre les corps et voilà. Donc... J'y retourne.
Une petite lecture.
Une petite lecture. Les murs et les tours avaient été dépouillés avant l'aube de leurs malheureux ornements. Les flamands avaient dû passer la moitié de la nuit à les faire disparaître. L'idée ne venait sûrement pas d'eux, mais peut-être du shérif Prescott. Il avait approuvé ces exécutions, ce qui ne voulait pas dire qu'il y avait pris plaisir, mais c'était un vieux soldat habitué à l'ordre et à la discipline. Il aimait que sa garnison ait de la tenue. « Faites bien attention, » recommanda Cadval, « au cas où l'un de ces malheureux vivrait encore. » Les soldats ont fait vite. Ils ont pu en dépendre un ou deux trop tôt. Et avec ces herbes épaisses, on peut survivre peut-être même à une chute pareille. Ils avaient commencé au lever du jour. Il était près de midi quand, ayant disposé tous les morts dans la salle, ils entreprirent de les laver et de les rendre aussi présentables que possible. Ils leur fermèrent les paupières, redressèrent leurs membres brisés, recoiffèrent des cheveux en désordre, lièrent des mâchoires affaissées afin que ces visages ne fussent pas un objet d'horreur pour les épouses ou les parents désolés qui les avaient aimés. Avant d'aller rappeler à Prescott la proclamation promise, Cadval passa en revue ses semblables sauvagement exécutés et les compta. À la fin, il fronça les sourcils, réfléchit, puis les compta de nouveau. Quand ce fut fait, il commença à examiner de beaucoup plus près ceux dont il ne s'était pas occupé lui-même, soulevant les linges couvrant les visages les plus abîmés. Lorsqu'il les eut tous regardés, il se releva l'œil sombre et d'un pas décidé partit à la recherche de Prescott sans rien dire à quiconque. « Combien d'hommes, dites-vous, ont été pendus sur l'ordre du roi ?» demanda Cadval. « 94, » dit Prescott, surpris et impatient. « Vous n'avez pas compté, » répliqua Cadval, « ou vous l'avez mal fait, moi j'en ai 95. » 94, 95, lança Prescott exaspéré. Un de plus ou de moins, quelle importance. Ce sont tous des traîtres, ils ont tous été condamnés. Je ne vais pas m'arracher les cheveux parce que le nombre ne correspond pas tout à fait. Vous non, peut-être, reconnut simplement Cadval. Mais Dieu demandera des comptes. Vous aviez ordre d'exécuter 94 hommes. Que cela se justifie ou non, c'était vos ordres. Ils émanaient du roi, ça c'est clair. Pour cet acte, les comptes se régleront plus tard et devant un autre tribunal. Mais ce 95e ne faisait pas partie du total, le roi n'avait pas autorisé son exécution, nul gouverneur n'en avait reçu l'ordre, il n'a jamais été accusé de rébellion ou de haute trahison, et celui qui l'a tué est coupable de meurtre. Voilà, à partir de là, commence notre histoire. Ça va être la recherche par frère Caval du meurtrier de ce 95e. Alors, ce greffe là-dessus, bien entendu, là aussi, une histoire d'amour, c'est toujours nécessaire, ça met un petit peu de piment.
Ça aussi, ça marche bien.
Voilà. C'est le premier de 21 livres écrits par Elise Peters. Frère Cadval est un enquêteur hors pair, un homme absolument adorable, plein d'humanité. C'est joliment écrit. On n'a qu'une envie, c'est d'aller au bout pour savoir ce qui s'est passé réellement, parce que bien entendu, c'est dans les 10 dernières pages qu'on a la solution. Il y a de tout, il y a des poursuites, il y a des blessures, il y a un jugement de Dieu. C'est magnifique. Alors, Elise Peters, un cadavre de trop, chez Grand Détective 10-18.
Super collection, voilà. Aussi. Hein.
Super collection. C'est un des meilleurs, je trouve, de la série.
Oui.
Ouais.
C'est vrai qu'il est très prolixe, hein. Il en a acheté, il en a écrit vraiment beaucoup.
C'est
beaucoup,
une dame.
Hein. Ah oui, c'est elle.
C'est une dame.
Ah, j'ai toujours
Elise
cru que c'était
Peters,
un homme.
Elise Peters, elle s'appelle Elise Pargeter. Elle a écrit une série qui s'appelle La Pierre de Vie, en dehors de ça. Elle était professeure d'histoire médiévale.
Ouais.
Et elle avait trouvé vraiment son personnage avec ce frère Cadval, qui a été copié plusieurs... ce genre de série a été copié sous d'autres cieux, à d'autres époques, etc. Mais c'est quand même ce frère Cadval qui est meilleur. Moi, je l'adore.
et tous ces romans se passent toujours à la même époque.
Alors, la particularité, c'est que... C'est pour ça que j'ai commencé le premier. Il faut toujours commencer par le premier.
Ouais.
Parce que derrière se passe toute l'histoire, toute la réalité de l'histoire avec un grand H. C'est toute la conquête... De l'Angleterre par les successeurs de Guillaume le Conquérant, parce la guerre civile a duré pendant près de 60 ans. Frère Cadval, il est vieux et cacochime quand on arrive au bout, parce que justement, il s'est passé des tas de choses. Mais vous suivez, il faut les lire les uns après les autres dans l'ordre pour suivre en même temps l'histoire de l'Angleterre. Passionnant, passionnant.
C'est bien quand je vous vois passionnées, là, toutes les deux. Ça me fait toujours un grand plaisir.
Puis c'est le temps.
C'est le temps, ouais, c'est ça.
Oui, puis on parlait de livres coup de cœur, non?
Oui, exactement. Voilà. Ouais, complètement. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Anita O'Day, donc Senior Blues. À la suite, on retrouvera donc la chronique d'Alice, la chronique politique d'Alice. Et puis, on se retrouve après tout ça, mesdames. Hein, vous ne bougez pas, hein.
Pourquoi vous
retrouchez à la
table. Il pleut dehors.
Voilà, vous aurez le temps de boire un coup, enfin tranquille. Quoi, hein. Bon,
ça va
dites
bien.
Pas trop de bêtises quand même. À tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Senior Blues is what they call him. Way down Mexicali way. Senorita's fallen for him, with the hope that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Well, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Yes, he's tall and good looking. know what to say by the time that they love him. Senor Blue's done gone away. A wandering, wandering guy with no one gal to lay his head by. Ooh, I'm so tired and lonely and blue, 'cause the one man I love won't be true. Got the blues and it's all 'cause of you. Senor.
En ce mois d'avril 2017, j'ai trouvé un petit ouvrage fort intéressant. Ça s'appelle « Lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout ». C'est de Nicolas Lebourg et c'est publié aux éditions Les Échappées. Allez savoir pourquoi, je me suis dit que ce pourrait être de circonstance. Alors Nicolas Lebourg, c'est un historien chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Europe latine à l'Université de Montpellier et membre de l'Observatoire des radicalités politiques. Aujourd'hui, c'est un commentateur incontournable du FN, donc un spécialiste qui s'est donné comme ligne de conduite de rester le plus neutre possible face à son sujet, le Front National. Et oui, plutôt que de vociférer contre le FN et son électorat, Nicolas Lebourg explique les mécanismes du parti sans jamais tomber dans la facilité, à tel point que certains journalistes lui ont reproché d'être atteint du syndrome de Stockholm face à son sujet. Bah ouais, le gars serait tellement fasciné qu'il en oublierait d'être critique. Alors oui. Dans l'introduction à « Lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout », il écrit, je cite, « Pour la première fois, mesdames, messieurs, vous allez voter Front National. Qu'ai-je à vous répondre ? Certainement pas que vous êtes un amas de fascistes, de racistes, de réactionnaires et tutti quanti. France moisie contre dictature socialope, voilà le niveau du débat où notre espace public se noie. Moins on a d'idées, plus on éructe. » Fin de citation. S'en suivent 10 lettres adressées à des électeurs du Front National, imaginaires, mais chacun placé dans un contexte spécifique. Il y a le professeur d'Albi, la caissière de Perpignan, l'ouvrier agricole de Senlis, le gendarme catholique de Nantes ou le médecin d'Aix-en-Provence. Et à chaque fois, au prétexte de s'adresser à cette personnalité type, mais pas caricaturale pour autant, l'historien explique comment le Front National a fait son trou dans toutes les strates de la société. Comment 9,4% des enseignants du secondaire ont voté FN en 2015, alors qu'ils n'étaient que 3,8% 3 ans plus tôt. Comment le FN s'est engouffré dans la brèche des fonctionnaires exaspérés par les attaques continuelles des différents gouvernements contre l'État-providence. Dans sa lettre à une seigneur de Janville, il explique comment depuis 1990, de Chirac à Sarkozy, tous les caciques de droite ont surfé sur les thèmes de l'immigration chers aux frontistes. On apprend ainsi que le FN est le champion du recyclage sur ses listes de militants de droite qui n'ont pas obtenu l'investiture du Parti Les Républicains. Dans sa lettre à l'ouvrier agricole de Senlis, il démontre que petit à petit, les habitants des zones rurales se sont sentis abandonnés par les pouvoirs publics, voyant disparaître les services publics et les commerces les uns après les autres. Et tiens, curieusement, en 2012, Marine Le Pen se proclamait, je cite, « le tribun de la France des oubliés ». Nicolas Lebourg écrit, je cite, « au régional, la messe fut dite ». Partout en France, le FN a écrasé ses concurrents dans les villages. Les hommes politiques et les journalistes n'auraient dû parler que d'aménagement du territoire. Il n'en fut rien. Fin de citation. À la caissière de Perpignan, il raconte comment le FN a gagné le vote des femmes. Au gendarme catholique de Nantes, il explique que dans un sondage réalisé en 2015, 52% des sondés estimaient qu'il fallait rétablir la peine de mort. 69% que la société évolue vers trop d'assistanat et que 40% accepteraient un pouvoir politique autoritaire quitte à alléger les mécanismes de contrôle démocratique s'exerçant sur le gouvernement. Dans sa lettre au médecin d'Aix-en-Provence, il explique comment le FN a réussi à ratisser large en s'ouvrant autant aux ouvriers qu'aux professions intellectuelles supérieures. Aux élections professionnelles de 1998, le FN a ainsi créé des listes intitulées « Confédération française nationale des travailleurs » pour les salariés, celle-ci s'appuyait sur le social, et puis à côté, il y avait des listes entreprises modernes et libérales, côté employeur, très libéral. Bref, en 10 lettres, Nicolas Lebourg dresse le portrait d'une société peu à peu gangrénée par les thèses frontistes. Ce faisant, il ne justifie pas ses thèses, non, non. Il souligne l'intelligence d'un parti qui a su s'immiscer dans toutes les brèches ouvertes par les autres partis. La dernière lettre, adressée à un lepéniste dubitatif, conclut l'exposé en beauté. Nicolas Lebourg rappelle que derrière tous les beaux discours du front se cachent toujours les thèses historiques du rejet de l'immigration. Tiens, D'ailleurs, saviez-vous que le programme du FN intègre l'interdiction des manifestations de soutien aux sans-papiers ? Mais surtout, comment la gauche a complètement failli en oubliant son champ d'action sociale et en creusant le sillon du Front National pendant ces 5 dernières années ? Là où les observateurs estiment que voter au FN est un vote de protestation, explique Nicolas Lebourg, eh bien en fait, il s'agit plutôt d'un vote de conscience, où l'électorat choisit un programme et non pas seulement un homme ou une femme. Enfin, l'auteur démontre que même si le FN ne gagne jamais les élections, la victoire est latente, car, je cite, « le score du parti influe sur le réel. Les législations relatives à l'immigration ou à l'insécurité changent convulsivement après les scrutins nationaux où un FN, même finalement défait, a marqué sa présence. » Fin de citation. En d'autres termes, voter FN revient à exercer un lobbying législatif. Bref, un petit livre très bien fait qui, au lieu d'éructer contre les électeurs frontistes, analyse avec intelligence une situation politique qui est tout sauf une surprise.
Et voilà, la chronique politique d'Alice à retrouver, comme cette émission, en podcast sur le site de studiozef.fr. Je suis toujours avec vous, mesdames, Anne et Catherine. Alors, c'est l'heure du conseil bande dessinée.
Oui.
Parce que effectivement cette année, je me suis dit, bah, tiens, ça serait pas mal d'en parler un petit peu. C'est vrai que nos amis de la maison de la BD n'ont pas souvent l'occasion de prendre l'antenne à Studio Zef, pour X raisons. D'ailleurs, on va essayer de remédier à ce problème. Et ben, nous, on est plusieurs à être fans de BD. Et donc, ce mois-ci, j'ai retrouvé, en fait, une bande dessinée que j'avais lue il y a déjà quelques années, puisque, bien sûr, moi, je ne parle pas forcément d'actualité. Hein. Je ne suis pas très moderne en termes de BD. Et donc, c'est Transpersonnage. Alors, Transpersonnage, à l'origine, c'est 3 tomes. C'est 3 tomes. Le premier est paru, je crois, en 1984, qui s'appelait tout simplement Le Transpersonnage. Ensuite, il y a eu L'Arpenteur en 99 et La Traversée. Et là, il y a l'intégrale donc, qui est déjà sortie en 2013. C'est une histoire absolument fascinante d'un train perdu dans l'immensité glaciale, dans une ambiance de fin du monde, puisque les seuls survivants se retrouvent dans ce train qui roule à perte de vue indéfiniment, qui ne s'arrête jamais. Et où les pauvres sont à l'arrière et ceux qui régissent un petit peu toute l'intendance, et, les vivres, le pouvoir, qui exerce le pouvoir les uns sur les autres, sont à l'avant. Voilà, alors c'est une ambiance de fin du monde, même dans le graphisme, parce que y a une espèce d'angoisse de noir et blanc et de gris très présent. Ce qui est très intéressant aussi, ce sont les dialogues. Et bien sûr, tout est basé sur la survie, sur le pouvoir. C'est pas gay. Hein, l'homme est un loup pour l'homme, vraiment, tout au long de cette bande dessinée. Donc, c'est Transpersonnage, c'est l'intégrale. Voilà, vous pouvez trouver à la bibliothèque de l'Aube Rochette. Et le grand, voilà. Alors, vous connaissez ?
Non.
Transpersonnage ?
Oui, je
connais. Oui. Donc il y a une adaptation cinématographique aussi, voilà, qui paraît-il est pas mal. Donc je vais m'empresser de le regarder. Il nous reste un peu de temps, mesdames. Je vous propose, parce que vous êtes intarissables sur la lecture, je suis sûre, Anne, je suis sûre que tu peux nous trouver un petit conseil comme ça au dépoté.
Oui, bien sûr. Enfin, se raccordant avec ce que j'ai lu tout à l'heure, j'ai effectivement découvert un livre absolument passionnant qui s'appelle... J'étais médecin dans les tranchées, qui est écrit par un médecin qui raconte sa guerre de 14, qui a commencé... en août 14 et qui s'est terminé en juillet 19 sur son ambulance. Et c'est extrêmement bouleversant parce que cet homme qui a eu la chance de passer 5 ans sans une blessure, sans un accroc, a vu passer des régiments entiers dans son ambulance, des hommes qui étaient brisés, qui étaient cassés, qui étaient complètement démolis et aussi démoralisés, parce que ça se passait dans des conditions absolument extrêmes. On n'a pas idée de l'enfer dans lequel sont passés non seulement les gens de l'époque de Maurice Genevoix, qui, je vous le rappelle, a été blessé en avril 1915. Donc, lui, sa guerre, c'est le tout à fait le début. Mais ceux qui ont été à Verdun, qui ont réussi à en sortir, mais qui ont vécu Verdun, qui ont vécu la Somme, qui ont vécu cette vision au plus près par ce médecin est absolument passionnante et bouleversante. Voilà, ça s'appelle donc « J'étais médecin dans les tranchées » de Louis Maufray, M-A-U-F-R-A-I-S. C'est dans le livre de poche depuis peu de temps, parce que les souvenirs de Louis Maufray n'ont été mis sur papier et dans le commerce que dans les années 60-70, à une époque où, ma foi, la guerre de 14, c'était un moment parmi tant d'autres, on n'en parlait pas trop, et ça n'avait pas eu tellement de succès. Et finalement, ça a commencé à vraiment marcher à partir du moment où ça a été dans le livre de poche. Voilà.
Merci, Yann. Catherine, est-ce que tu as quelque chose dans ton chapeau ?
Alors, le livre que je viens de finir hier soir.
Ça, c'est bien, ça. C'est dans le vif, ça.
En fait, c'est amusant, puisque là, on donne des conseils de lecture. Et pendant les rendez-vous de l'histoire, je suis allée à une rencontre avec Michel Perrault et Mona Ozouf, qui parlaient de George Sand et George Eliot.
Tu peux juste rappeler qui sont ces deux auteurs ?
Deux auteurs, deux historiennes, dont l'une, plutôt spécialiste de la Révolution française, mais de tellement d'autres choses, puisqu'elle est capable de parler de George Eliot en long et en large et George Sand. Donc, c'était amusant ce rapprochement des deux, l'une ayant écrit plutôt sur George Sand et l'autre sur George Eliot, quoi qu'elle parle des deux Georges. Voilà. Et je l'avoue, je n'avais rien lu de George Eliot. Donc, je me suis sentie mal. Et dès que je suis sortie, j'ai cherché le bouquin de George Eliot. Et elle conseillait elle-même, si vous n'avez rien lu, lisez son chef-d'œuvre Middlemarch. Alors, moi, je suis bête et disciplinée, donc j'ai suivi le conseil. Et puis, quand vous cherchez sur Internet, vous voyez la couverture, il existait en poche. Vous vous dites, c'est parfait et tout. Quand vous avez le bouquin dans les mains, ça change tout parce que le livre fait plus de 1000 pages. Donc, si je le conseille maintenant, c'est parce que c'est l'hiver et que c'est vraiment le moment de lire. Alors...
T'as peur de rien.
Ah voilà. Alors, c'est quoi Middlemarch ? Donc, c'est considéré comme le chef-d'œuvre de George Eliot. Alors, George Eliot, comme son nom l'indique, comme George Sand, est une femme. Il n'y a pas de S à George. Elle s'est appelée George Eliot, enfin, comme elle a pris ce nom en hommage à George Sand, qui était son aîné d'une quinzaine d'années, je crois. Et donc, Middlemarch est un roman qui raconte l'histoire d'une petite ville de province dans le Midland, donc en Angleterre, donc dans les années 1830 à peu près. Le roman a été écrit dans les années 1870. Donc avec tout ce qu'on peut imaginer, ça peut être à la fois des histoires d'amour, les problèmes d'argent, elle parle aussi bien des problèmes politiques, puisque c'est une période assez trouble sur le plan politique, que des progrès médicaux. Enfin, c'est une femme brillante, George Eliot. Et c'est extraordinaire. Et en plus, on est complètement passionné par son histoire. On est dans la vie de ses personnages. Et ben, les 1000 pages, elles passent. Hein, je peux vous le dire. Et alors, je vous conseille d'acheter le livre parce que 1000 pages, c'est un peu long. Mais ça existe en poche, donc ça va, c'est pas trop cher. Ouais. Hein, voilà. Donc, Middlemarch de George Eliot. Voilà la dernière lecture.
Super. Je peux ajouter un petit
quelque
chose.
Oui, bien sûr, Anne.
Alors,
vas-y.
Il se trouve, je voulais rajouter deux choses. La première, c'est qu'un autre livre de George Eliot, absolument délicieux, s'appelle Le moulin sur la flosse. Et ma maman m'avait offert ça pour mes 18 ans. Et c'est un souvenir très, très, très lointain.
Du siècle dernier, soyons clairs.
Du siècle dernier. Et la deuxième chose assez amusante, c'est que Mona Ozouf et Michel Perrault sont des vieilles copines qui étaient professeurs ensemble à Amiens. Ouais. C'était leur premier poste à toutes les deux.
D'accord.
Au lycée d'Amiens.
Je crois que c'était à Rouen qu'elles étaient. Je crois. Enfin, c'est pas grave.
Enfin, Michel Perrault, en Normandie, donc... On va pas être.
Bah, Amiens, c'est pas la Normandie, enfin.
Presque.
Ah, bah, ça y est.
La Picardie.
Non, mais c'est vrai qu'elles étaient. Elles étaient enseignantes toutes les deux dans la même école. Mais justement, pendant la rencontre, elles ont parlé de ça et elles ont parlé de la date. Et c'est là que vous voyez que ces dames ont vraiment un certain âge. Et quand vous les voyez, ça vous fait rêver. Des femmes qui ont plus de 80 ans et qui sont brillantes,
Qui sont
amusantes,
pleines
vives.
De punch.
C'est extraordinaire. Si l'histoire, ça conserve comme ça, soyons tous historiens.
C'est la passion.
C'est la passion.
C'est fabuleux. Tout à fait.
Et, et l'esprit de curiosité.
Bien sûr. Et bien, sur ces bonnes paroles, parce que si quand même, Catherine, on s'achemine à grands pas.
J'osais pas faire ma propre publicité, mais on est en plein dans la préparation de la 4e édition du Salon du Livre Jeunesse, où nous avons, dont le parrain s'appelle Benjamin Lacombe, alors c'est vraiment une pointure en BD, et nous avons donc 20, en fait on va s'acheminer vers 23 intervenants dans les classes, avec à peu près 150 classes qui participent.
Gros boulot là.
Mais avec une brochette d'auteurs, illustrateurs superbes, déjà sur 3 belles expos, et on a réussi à créer des partenariats pour que les expos ne soient pas visibles simplement 2 ou 3 jours pendant le salon, mais en amont. Comme l'année dernière pour le parrain où il y avait à la maison de la BD pendant 2 semaines et demie avant, cette année ce sera la même chose, mais on va également faire la même chose avec la ville de Vineuil qui devient partenaire cette année, donc c'est quand même très sympa, vraiment sympa.
Super.
Et puis avec l'espace culturel qui prendra aussi une exposition en amont. Donc plus de gens, plus de classes pourront découvrir.
Donc plus de lieux aussi.
Alors le salon lui-même est toujours dans le même lieu. Enfin, il envahit encore un peu plus Saint-Gervais. l'année dernière, on a eu 3800 visiteurs. Donc comme m'a dit quelqu'un, je ne sais pas comment vous avez fait parce que votre pub, elle est légère. C'est dans un coin perdu de Saint-Gervais. Comment vous les faites venir? Bon, bah alors quand même, on a dû en parler un peu, non?
Oui, tout à fait. Catherine, de toute façon, tu n'es pas sans revenir, justement. Peut-être qu'on fera une émission spéciale, comme on disait la dernière fois. Parce que c'est un événement très chouette.
Exactement.
Et qui est important, quoi, qui est local. Et il faut en parler, comme tout ce qui se passe. Il y a plein de choses qui se passent autour.
Qui touchent tout le département.
Exactement. Oui, tout à fait. Merci encore, mesdames. Je vous attends le mois prochain. Je rappelle que cette émission donc, est en podcast sur studiosf.fr et en rediffusion le dimanche. Si vous n'en avez pas assez, je vous embrasse et à bientôt à la radio.